Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, le match parfait. Ultime mise en garde. Et des mères célibataires s'unissent sous le même toit. Bonne écoute.
Le match parfait. Un texte de Marc Cassivi, paru le 25 juin 2023 dans La Presse. Ariane Moffatt venait de faire résonner la cloche chez les supporters après le but du CF Montréal. J'adore cette odeur. Je sais que c'est illégal, mais j'adore cette odeur, m'a dit Luc en parlant des fumigènes qui ne sont pas tous autorisés au stade Saputo. Je ne connaissais pas Luc Fortin avant mercredi. Sa sœur Michel m'a écrit début mai à la suite de la parution d'une chronique sur mes soirées au stade avec Fiston. Luc a eu 60 ans hier, brillant, s'exprime très bien, beaucoup de connaissances, beau bonhomme, 6 pieds, habite seul. Luc est aussi, m'a précisé sa sœur, un amateur de longue date de l'Impact. Le match parfait. Nous nous sommes donné rendez-vous pour une blind date. Je suis passé le chercher chez lui en voiture. Il m'attendait dehors, dans l'escalier, et s'est approché dès que j'ai commencé à ralentir en cherchant son adresse. Je m'assois devant ou derrière? J'étais sorti, un peu nerveux et maladroit, pour lui ouvrir la portière. Il l'a ouverte lui-même et s'est assis derrière Fiston, notre chaperon. On a jasé de la fin des études secondaires de Fiston, du fils de Luc, qui étudie en France, de son ami Jean, que j'ai connu naguère au devoir. De soccer aussi, bien sûr, notre passion commune. Quand je me suis garé rue Viau, il m'a posé une question qu'on ne m'avait jamais posée et à laquelle je ne m'attendais pas. Suis-je du côté du trottoir ou de la rue? Luc est non-voyant. Il est né avec une microphtalmie. Enfant, dit-il, il pouvait attraper un ballon, mais pas une balle. Adolescent, il pouvait lire les grands titres du journal, mais pas l'article. À 21 ans, il a complètement perdu la vue. Son fils de 33 ans, qui voit encore, souffre de la même pathologie oculaire. Je suis voyant, mais j'ai bien des angles morts, à commencer par ne pas anticiper une question aussi prévisible que « Si j'ouvre ma portière, est-ce que je risque de faucher un cycliste ou de me retrouver face à une voiture? » Luc a pris mon coude pour se guider. De la plus subtile des manières, du bout des doigts. Heureusement, j'ai eu le réflexe de lui dire qu'il y avait une portière ouverte sur notre chemin grâce à Fiston qui agissait en éclaireur. Arrivé près du stade, j'étais devenu précautionneux. Il y a un léger dénivelé ici, un changement de surface là. On va passer de l'asphalte au béton et du béton à la terre. Attention, il y a du pavé uni qui retrousse. Lorsque j'ai averti Luc qu'il y avait devant nous un petit nid de poule, sans trouver le terme exact, il m'a dit que c'était la seule information que j'aurais eu à lui communiquer depuis le début de notre marche. Il me l'a dit, avec humour et bienveillance, de sa voix chaleureuse d'ancien animateur de radio et de télévision à Ami Télé. Je craignais, plus que tout, de ne pas bien guider Luc dans les escaliers qui mènent au stade. J'ai dit qu'il y avait 2 marches, il y en avait 3. Il m'a rassuré en m'apprenant que par les seuls mouvements de mon coude, il parvenait à anticiper une nouvelle marche ou un palier. « Ton coude », me le dit. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas le ballon que Luc s'empêche d'apprécier un match au stade. Il s'imprègne de l'ambiance tout en écoutant en direct la retransmission de la partie à la radio sur un petit appareil muni d'écouteurs. Il m'a fait comprendre que vivre le match, ce n'est pas voir le match, c'est sentir la vibration des gradins quand tout le stade se met à chanter en tapant des mains et des pieds. C'est le son de la foule, ses élans euphoriques et ses passages à vide, ses explosions de joie après un but ou ses récriminations collectives à la vue d'un carton jaune. C'est la longue chanson à répondre perpétuelle entre les deux sections de supporters aux deux extrémités du terrain. On leur doit beaucoup, croit Luc. C'est la liesse au son des trois coups de sifflet de l'arbitre à la fin du match. On ne m'a jamais autant parlé de l'arbitre, a d'ailleurs ironisé Luc, lorsque j'ai noté que la femme qui officiait le match courait davantage que ses collègues masculins. Je lui ai fait remarquer à quel point le CF Montréal semblait contrôler le jeu en première mi-temps. « Oui, mais Nashville n'est pas un club de possession », m'a rappelé Luc avec raison. Il connaît sa MLS. Comme fiston, il écoute les matchs de l'Ouest lorsqu'il rentre du stade Saputo. Le lendemain, il réécoute la partie du CF Montréal qu'il a enregistrée à la télé, même si la description est moins précise qu'à la radio. « Je connais le match, donc c'est moins grave ». Fiston nous tenait au parfum de la durée des arrêts de jeu. Il restait une trentaine de secondes au match. « Il y a quelqu'un derrière ?» m'a demandé Luc. Il s'est levé en applaudissant et tout le stade l'a imité. C'était une soirée parfaite de solstice d'été. Le soleil qui nous avait réchauffé pendant une heure avait fait place à une légère brise. Il y avait de l'électricité dans l'air, tout ce que nos yeux ne peuvent pas percevoir. C'était le match parfait, un texte de Marc Cassivi, paru le 25 juin 2023 dans La Presse.
Mise en garde, un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er juin 2023 dans La Presse. Le Canada deviendra le premier pays au monde à exiger des avertissements sanitaires imprimés directement sur les cigarettes individuelles, a annoncé mercredi le gouvernement Trudeau. Une mesure acclamée par des groupes de santé, mais qui suscite l'incompréhension de l'industrie du tabac. La cigarette endommage vos organes. La cigarette cause l'impuissance. Du poison dans chaque bouffée. À partir de 2025, chaque cigarette, petit cigare ou autre produit du tabac sera individuellement dotée d'un avertissement pour les consommateurs. L'annonce a été faite mercredi par la ministre de la Santé mentale et des dépendances, Caroline Bennett, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. L'objectif est d'aider les adultes qui fument à arrêter, protéger les jeunes et les non-fumeurs de la dépendance à la nicotine et réduire l'attrait du tabac. À partir de l'année prochaine, ces nouvelles mesures contribueront à faire en sorte que chacun puisse recevoir des informations crédibles sur les risques du tabagisme afin de faire des choix plus sains pour son bien-être, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos. Dès avril 2024, les détaillants devront vendre des produits du tabac affichant de nouveaux messages relatifs à la santé. Les cigarettes de format long seront les premières à arborer des avertissements sanitaires individuels d'ici juillet 2024. Par la suite, les cigarettes de format standard, les petits cigares avec papier de manchette et les tubes devront également comporter ces avertissements d'ici avril 2025. Informer les jeunes. Ça semble être une bonne idée. C'est une innovation du côté du gouvernement fédéral de faire ce genre de pas de l'avant. Il faut saluer ces initiatives, surtout du point de vue de la santé des enfants, a déclaré à la presse le Dr Nicolas Chadi, pédiatre au CHU Sainte-Justine et auteur des recommandations de la Société canadienne de pédiatrie sur le tabagisme et le vapotage. L'avertissement imprimé directement sur les cigarettes concerne particulièrement les jeunes qui pourraient ne pas prêter attention à l'emballage, a indiqué le gouvernement fédéral. Parfois, chez les enfants et les adolescents qui commencent tôt à fumer, ils ne vont pas acheter eux-mêmes un paquet de cigarettes, ils vont s'en faire donner ou vont demander des cigarettes individuelles à des pères ou à des membres de leur famille. Donc, d'avoir cet avertissement sur chaque cigarette, ça augmente les chances qu'ils reçoivent le message, explique le Dr Chadi. Un effet aversif et repoussant. Il est difficile de savoir quel impact auront réellement ces nouvelles mesures, indique le Dr Chadi. Or, certaines études ont démontré que de mettre des avertissements et des images graphiques sur les paquets de cigarettes peut avoir un effet aversif et repoussant pour les enfants et les adolescents, note le spécialiste. Le gouvernement fédéral a prévu d'effectuer une rotation dans les messages affichés sur les produits du tabac et les paquets selon un calendrier prédéterminé. Le contenu des messages liés à la santé, comme les images et le texte, pourra aussi être modifié pour refléter les recherches scientifiques les plus récentes. Le Canada souhaite que ces nouvelles mesures contribuent à réaliser son objectif d'atteindre un taux de tabagisme inférieur à 5 % d'ici 2035. En ce moment, on est à environ 12 %, donc plusieurs mesures doivent se multiplier pour atteindre l'objectif, a indiqué le directeur des relations gouvernementales au Québec à Cœur plus AVC, Kevin Bilodeau, qui s'est réjoui de l'annonce. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a également accueilli avec enthousiasme le nouveau règlement. Comme n'importe quelle publicité inchangée depuis 10 ans, les avertissements qui se retrouvent depuis 2011 sur les paquets de cigarettes avaient perdu de leur efficacité auprès des fumeurs et leur entourage, a déclaré dans un communiqué Floride Duca, co-directrice et porte-parole de la coalition. Vous écoutez « Ultime mise en garde », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er juin 2023 dans la presse. Une mesure contre-productive. Pour Éric Gagnon, vice-président aux affaires juridiques et externes chez Imperial Tobacco Canada, il est difficile de comprendre le raisonnement du gouvernement concernant ces nouvelles réglementations. Il soutient notamment que ces mesures n'auront aucun impact sur le marché canadien illégal de cigarettes, qui bénéficiera à nouveau d'un avantage concurrentiel par rapport aux fabricants de tabac légaux, dit-il. Il estime par ailleurs que ces nouvelles réglementations exigeront plus de 20 % d'emballage en carton et environ 19 % d'encre en plus par rapport aux emballages de cigarettes actuels. Cette mesure semble contre-productive alors que les gouvernements tentent de réduire la charge des emballages sur l'environnement, dit-il. Mesures à venir. 31 janvier 2024, les fabricants devront afficher 14 nouvelles mises en garde illustrées sur l'extérieur des produits du tabac. Les messages apparaissant à l'intérieur des paquets devront également être améliorés. 30 avril 2024. D'ici un an, les fabricants devront ajouter des avertissements sanitaires à même les cigarettes de format long, soit d'une longueur de 83 à 85 mm. 31 janvier 2025. Ce sera ensuite au tour des cigarettes de format standard, soit de 70 à 73 mm, des petits cigares avec papier de manchette et des tubes, d'arborer des avertissements sanitaires. 31 juillet 2026, ultime étape de ce nouveau règlement, le rabat supérieur des paquets de cigarettes affichera des messages d'information sur la santé. La longue bataille contre le tabac. De l'interdiction de fumer dans les écoles à l'introduction d'emballages de cigarettes neutres, le Québec et le Canada ont mis en place une série de mesures strictes pour combattre le tabagisme dans les dernières décennies. Retour en arrière. 1986, le début d'un élan. Il devient interdit de fumer dans les organismes gouvernementaux, municipaux, scolaires et les établissements de santé et de services sociaux du Québec. Le règlement ne s'applique toutefois pas dans un lieu réservé à l'usage du personnel ou dans un fumoir. La cigarette est également bannie à bord de tous les avions canadiens durant les vols de 2 heures au moins. 1998, au boulot, c'est non. La cigarette est bannie des milieux de travail. Dans les restaurants, 40% des places réservées à la clientèle au maximum peuvent être désignées comme des places où il est permis de fumer. 2000, images choquantes. Le Canada instaure pour la première fois des règles concernant des images choquantes sur les emballages de cigarettes dans le but de montrer les dangers pour la santé et les effets néfastes du tabagisme. 2003, des noms disparaissent. Le Canada interdit toute promotion liant une marque de cigarette à une activité sociale, culturelle ou sportive. Le stade de tennis du Parc Jarry perd son appellation de « Stade du Maurier ». De son côté, Imperial Tobacco Canada abolit son équipe Players et sa fondation Mode Matinée. 2006, interdite dans les bars. Il devient interdit de fumer dans les bars, les brasseries, les tavernes et les salles de bingo au Québec. Les aires fumeurs dans les restaurants, les centres commerciaux, les salles de quilles, les salles de billard, les centres de congrès et les autres lieux de divertissement disparaissent également. 2008, soustraite à la vue des clients. Les détaillants sont tenus de cacher les produits du tabac de la vue des clients. Cette mesure vise à décourager l'achat impulsif de cigarettes et à réduire l'exposition des jeunes aux produits du tabac. 2011, un message qui prend de la place. Les avertissements illustrés doivent désormais occuper 75% du recto et du verso des paquets de cigarettes. Ces avertissements sont accompagnés de messages de santé colorés et d'images, ainsi que de déclarations claires sur les émissions toxiques et les substances dangereuses. 2016, interdite avec des enfants à bord. L'interdiction de fumer dans les véhicules en présence de personnes de moins de 16 ans entre en vigueur au Québec. Cette mesure vise à protéger les enfants des effets néfastes de la fumée secondaire. La même année, il devient interdit de fumer à moins de 9 mètres des portes et fenêtres des bâtiments publics, ainsi que sur les terrasses des restaurants et des bars. 2019, le format du message. Les emballages et les produits du tabac doivent adopter une apparence neutre. Tous les emballages de produits du tabac doivent être d'une couleur brun terne uniforme et ne contenir que le texte autorisé, présenté dans un format standardisé en ce qui concerne l'emplacement et les caractères utilisés, police, couleur et taille. C'était « Ultime mise en garde », un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 1er juin 2023 dans la presse. Des mères célibataires s'unissent sous le même toit. Un texte de Deborah Kamen, paru le 27 mai 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times. D'abord, Kristen Beatty Keffer a perdu son travail en marketing à la suite d'une restructuration. Ensuite, son mariage s'est effondré et elle s'est retrouvée sans revenu ni toit. Pour l'aider à se remettre sur pied l'an dernier, deux amis l'ont hébergée avec sa fille, qui a maintenant 4 ans, dans leur maison de 4 chambres près de Jacksonville, en Floride. Puis, la meilleure amie de Mme Betty Keffer, Tessa Gilder, en instance de divorce elle aussi, a emménagé dans la maison avec ses deux enfants de 1 et 5 ans. Très vite et sans que ce soit planifié, elles se sont retrouvées dans une commune de mères célibataires, ce que les Américains appellent une « momune », mot-valise formée de « mom » et de « commune ». Solidarité maternelle et financière. Partout dans le monde, des femmes unissent leurs forces sous le même toit, partageant l'éducation des enfants et les factures. Quand elle était mariée, Madame Betty Keffer avait raconté sur les réseaux sociaux sa vie familiale nomade dans un bus rénové. Âgée de 32 ans, elle tient désormais la chronique de sa nouvelle vie de célibataire dans une maison occupée par 4 adultes et 3 enfants. Lorsqu'elle a été clouée au lit par un mal de tête, un mal de gorge et des courbatures, les autres femmes lui ont préparé une soupe et des biscuits et ont emmené les enfants au parc pour qu'elles puissent se reposer. Un système de soutien sans pareil, a écrit Madame Betty Keffer sur TikTok dans un message qui a été vu plus d'un million de fois. J'aurais dû emménager dans une momune il y a longtemps. Ce mode de vie n'est pas nouveau. Les mères partagent des maisons depuis des siècles. Mais la pandémie et le nombre croissant de familles monoparentales aux États-Unis ont mis en lumière cette structure familiale réinventée. Dans les cultures latines, il y a cette idée de comadre, comère, une personne qui vous soutient et vous aide à élever vos enfants, explique Grace Bastidas, rédactrice en chef de Parents.com. Durant la pandémie, on a vu toutes sortes de groupes de soutien se former. Il s'agit donc d'une nouvelle version de ce type de partenariat. Madame Bastidas a grandi dans une commune de mère, élevée avec sa sœur et sa cousine dans la même maison par sa mère et sa tante, toutes deux célibataires. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il n'y en a pas toujours un, soutient Grace Bastidas, rédactrice en chef de Parents.com. Les mères célibataires sont très touchées par l'inflation et la rareté des garderies, ajoute-t-elle. Ça fait partie d'une tendance plus large de parents qui élargissent le concept de famille et prennent les choses en main pour trouver des solutions créatives. Près de 80 % des familles monoparentales aux États-Unis sont dirigées par des mères célibataires, selon le dernier recensement. La recherche montre que ces familles sont beaucoup plus susceptibles de connaître pauvreté, détresse psychologique, faible estime de soi et manque de soutien émotionnel. En avril 2020, en plein confinement pandémique, Holly Harper, cadre en marketing, et Erin Hopper, avocate, venaient toutes deux de divorcer. Ces deux amies de longue date télétravaillaient et encadraient l'école virtuelle de leurs enfants dans de minuscules appartements à Washington. Vivre si petitement, à si grands frais, n'avait plus de sens. Elles ont uni leurs ressources financières et acheté une maison. Regagner l'accès à la propriété. Pour Erin Hopper, 46 ans, cet arrangement permet d'assumer les tâches domestiques et la carrière sans conjoint. Il permet aussi l'accession à la propriété après un divorce. Holly et moi, on a toujours eu un penchant pour le voyeurisme immobilier. On s'est dit, pourquoi pas? Partager une maison, ajoute Holly Harper, offre aux mères célibataires une chose essentielle qui disparaît souvent quand leur couple se casse, la mobilité économique. Nous voulons la sécurité pour nos enfants et le soutien dont tout être humain a besoin. La base économique de tout ça, c'est l'immobilier. Quoi de plus logique que de partager, nous dit Erin Hopper. Carmel Boss vit depuis longtemps en commune de mère. Elle affirme avoir inventé l'expression « momune » bien avant qu'elle entre dans le vernaculaire américain. Il y a 20 ans, après son divorce, elle a fondé Co-Abode, une plateforme sans but lucratif de partage de maisons pour mères célibataires. Quand elle a décidé d'inviter une autre mère célibataire de Los Angeles à vivre avec elle et son fils de 7 ans, elle a constaté qu'il n'existait aucune ressource permettant aux mères célibataires à la recherche d'un logement commun de se rencontrer. L'idée de Co-Abode était née. Un Kijiji pour les mères. Au début, Co-Abode était une sorte de Kijiji pour les mères, dit-elle. En 2016, elle l'a transformé en entreprise à but lucratif. Depuis, 300 000 mères célibataires ont créé des profils de partage de logements sur son site, estime-t-elle. C'est comme un village en ligne, sauf que les femmes se rencontrent en personne, explique Mme Boss, 69 ans. En Floride, Tessa Gilder et Christine Bettekäfer n'ont pas l'intention de rester éternellement dans cette maison de quatre chambres près de Jacksonville. Le duo espère acheter et rénover une maison d'ici un an. Pour réduire les coûts, elles ont signé un contrat avec un producteur de télévision qui pense que la rénovation ferait une télé-réalité divertissante. Mais avec ou sans cette aventure télévisuelle, Mme Bettekäfer affirme que la petite communauté qu'elle a créée dans sa maison actuelle l'a aidée à se remettre d'une peine d'amour et à trouver une certaine paix. Elle se sent plus présente et plus concentrée en tant que mère. Quand j'ai dû quitter mon mari, j'étais obnubilée par la nécessité de me débrouiller seule pour acheter une maison, payer mes factures et élever mon enfant, a déclaré Mme Bettekäfer, dont le divorce a été prononcé en février et qui partage désormais la garde de ses enfants avec son ex-mari. Je n'avais jamais pensé à trouver une autre mère célibataire avec qui vivre et faire ça à deux. C'est arrivé par hasard, c'est tout. Mais maintenant, je me dis, pourquoi est-ce une exception d'unir nos forces? C'était « Des mères célibataires s'unissent sous le même toit », un texte de Deborah Kamin, paru le 27 mai 2023 dans la presse, publié à l'origine dans le New York Times.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vc.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Justine Langevin à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.